Bonjour à toutes et tous. Alors, comme d'habitude, vous êtes ici dans la seconde partie de notre conversation avec Lina Kenouche. Je vous recommande d'écouter la première partie qu'on a diffusée la semaine passée pour bien comprendre les éléments essentiels au niveau notamment du contexte qui nous permettent aujourd'hui donc d'affiner et d'approfondir notre analyse des dynamiques géopolitiques en vigueur dans la mer Rouge et aussi un peu au-delà, vous le verrez. Bonne écoute! Donc, on a parlé du soutien des États-Unis à Israël, et voilà que tout ce qui soutient Israël et qui est sur l'eau et qui traverse cette mer Rouge est attaqué par les Houthis. Donc, on imagine la réponse à votre question, mais clarifions-la. Quelle a été la réaction des États-Unis contre ces Houthis?
Cette réaction américaine, c'est celle de bombardements assez incessants, hein, des frappes qui ciblent les positions des Houthis. Mais je tiens à souligner que c'est une réaction qui a été soulignée, ça a été souligné d'ailleurs par les politologues américains, hein, qui est totalement inefficace. Puisque depuis le mois de janvier, les Américains adoptent la même approche envers les Houthis que celle qu'ils adopteraient face à une armée régulière. Or, les Houthis sont un groupe non étatique armé, enraciné dans la population, qui a recours à des techniques de guerre asymétriques. Donc, quand les Américains déclarent vouloir dégrader les moyens militaires des Houthis, c'est possible lorsqu'on sait où se trouvent les caches d'armes, lorsqu'elles sont connues et non pas lorsqu'elles sont complètement dispersées dans la nature. Donc, aujourd'hui, ils se sont engagés dans une confrontation difficile avec un acteur qui est farouchement attaché à son indépendance. Et je ne crois pas que les raids aériens ou les frappes de missiles sol-sol puissent avoir une quelconque incidence aujourd'hui sur le positionnement des Houthis. Au contraire, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette guerre est en train de leur apporter des bénéfices politiques importants puisqu'ils sont en train d'apparaître comme les champions de la cause palestinienne et qu'ils élargissent leur base sociale en interne.
Maintenant, peut-être pour jouer l'avocat du diable et en l'occurrence du grand Satan, pour reprendre un vocable cher à Téhéran, est-ce qu'on pouvait envisager une autre réaction de la part des États-Unis par rapport aux attaques des Houthis dans un contexte de soutien à Israël? Finalement, ne pas riposter à ces attaques, et vous avez souligné, les politologues américains eux-mêmes sont critiques de cette action en disant qu'effectivement, vous l'avez bien montré, on réagit face à ces attaques comme si on réagissait aux attaques d'un État et ça renforce simplement le pouvoir des Houthis sur place. Mais en même temps, qu'est-ce qui aurait pu être fait différemment à Washington, dans ce contexte de, effectivement, de récupération presque ou de capitalisation sur le conflit à Gaza par les Houthis?
Dans ce contexte, c'est un peu tard. Ce qui aurait pu être fait aurait dû être fait depuis longtemps. C'est-à-dire que pendant longtemps, les Américains pensaient qu'ils pouvaient mettre les miettes sous le tapis, comme on dit, qu'ils pouvaient continuer à gérer la région, à essayer en fait de préserver leurs intérêts régionaux tout en négligeant la question palestinienne, tout en n'apportant pas de réponse donc aux revendications palestiniennes et en laissant Israël mener la politique qui, quelque part, je ne justifie pas, mais j'explique, hein, dans un cadre historique plus global, ce qui a pu conduire justement à cette attaque du 7 octobre. Donc les Américains, quelque part, pour reprendre l'expression de Rachid Khalidi, un politologue donc palestino-américain, parle de courtiers en tromperie dans le sens où ils n'ont jamais été des médiateurs sérieux, crédibles pour essayer de trouver une issue négociée au conflit israélo-palestinien. Donc nécessairement, à force d'entretenir cette illusion qu'on pouvait stabiliser la région et continuer à gérer donc cette région sans régler en fait l'épicentre des conflits, à savoir le conflit israélo-palestinien, ça a été, on se rend compte que cette approche a été complètement contre-productive. Cette approche n'a mené à rien. Aujourd'hui, c'est une impasse. Et effectivement, à part réagir militairement aujourd'hui à une situation que les Américains ne contrôlent plus et qui est en train de les pousser à s'inscrire dans une nouvelle conflictualité, dans de nouveaux conflits desquels, à mon sens, ils auront beaucoup de mal à se tirer. Donc, je pense qu'ils n'avaient pas d'autre choix aujourd'hui, mais le choix aurait dû, enfin, la situation aurait pu être, ils auraient pu prévenir cette situation en amont en prenant à bras-le-corps la question du conflit israélo-palestinien et en étant des médiateurs crédibles en apparaissant comme des médiateurs crédibles sur ce dossier.
Oui, en fait, votre analyse rejoint totalement l'une des conclusions que l'on avait faites dans le cadre de notre podcast sur les accords d'Abraham, à savoir que ces accords tablaient sur un pourrissement et un essoufflement des opinions publiques sur la question du conflit palestinien, israélo-palestinien, en se disant qu'en jouant la montre, on allait finir par pouvoir arriver à un accord et à faire oublier ça. Et en réalité, pas du tout. Ça a été le mauvais calcul.
Tout à fait, tout à fait. C'est un mauvais calcul. Toutes les manœuvres dilatoires, de toute façon, les Américains... Enfin, voyez bien que, justement, quelque part, s'ils veulent contenir en fait les ambitions régionales de l'Iran, ils avaient tout intérêt à justement essayer de stabiliser la région en réglant le conflit israélo-palestinien, et ils se sont totalement détournés de la question, ce qui n'a fait que renforcer d'ailleurs le poids de l'Iran et de ses alliés. Iran qui d'ailleurs aujourd'hui donc bénéficie aussi de soutien de points, hein, la Chine, la Russie, et on est quand même dans un contexte aujourd'hui géopolitique qui montre que les alliés même des Américains aujourd'hui sont en train de diversifier leur partenariat stratégique avec des pays comme la Chine. Donc les Américains ont commis une erreur, à mon avis, de calcul majeur en laissant complètement de côté le règlement du conflit israélo-palestinien.
Très bien. Donc, et vous venez justement donc d'expliquer à quel point cette politique américaine, états-unienne, a permis le renforcement de l'Iran. Et ce que je trouve qui est beaucoup moins connu et beaucoup moins médiatisé, c'est l'influence qu'a l'Iran en Irak, ce qui paraît même d'un point de vue historique assez intéressant. Et dans vos publications qui se trouvent dans la description de cet épisode, donc j'oriente les auditeurs à aller s'y plonger pour avoir encore plus de détails sur notre discussion, eh ben, j'aurais aimé vous demander de faire peut-être un panorama. Donc, qu'est-ce que c'est que cette appellation groupe chiite irakien qui eux-mêmes semblent s'être menés à cette danse contre les États-Unis?
Alors, je vais essayer de schématiser un peu grossièrement, hein. On a trois grands acteurs. D'un côté, on a les groupes chiites qui se proclament résistance islamique en Irak et qui sont à l'origine des opérations contre les Américains, parmi lesquels le fameux mouvement Al-Nujaba, hein, qui est responsable des nombreuses attaques contre les forces américaines et qui a fait aussi partie un temps de ce qu'on appelle les forces de la mobilisation populaire, donc c'est-à-dire la coalition de forces paramilitaires chiites soutenues par l'Iran. Et donc Al-Nujaba a combattu au sein des forces de la mobilisation populaire contre le groupe État islamique. Mais disons que la résistance islamique en Irak intègre aussi d'autres groupes comme les brigades du Hezbollah ou les brigades de l'imam Ali, etc. Donc il y a différents groupes sous l'étiquette, le label en tout cas, résistance islamique en Irak. Ça, c'est le premier acteur. Deuxième acteur, ce sont justement les forces de la mobilisation populaire. C'est donc ces forces qui sont directement soutenues par l'Iran, au sein desquelles on va retrouver différents groupes comme Asab Ahl al-Haq. La différence entre le premier groupe et le deuxième, c'est que le deuxième est davantage en fait présent sur la scène politique et ne mène pas nécessairement ce type d'action armée qu'on retrouve chez les premiers. Et enfin, le troisième groupe, le troisième acteur, c'est les sadristes qui sont en conflit de pouvoir avec justement les forces de la mobilisation populaire, donc les forces soutenues par l'Iran, conflit qui a dégénéré en affrontements, donc des affrontements en ressorts multiples et locaux, hein, en août 2022. Mais il faut dire que sur la question palestinienne, tous ces groupes ont une position similaire. Donc, ils soutiennent le Hamas. Donc, ce qu'il y a à retenir, c'est que le principal auteur des opérations offensives qui ont ciblé l'armée américaine, c'est le groupe Al-Nujaba, qui fait partie donc de la résistance islamique en Irak, et dont l'objectif aujourd'hui principal, c'est de vouloir imposer un départ des troupes américaines en recourant justement aux actions armées. Une trêve était en place en fait de mars à octobre 2023, mais dès le 8 octobre, lorsque les États-Unis ont pris fait et cause pour les Israéliens dans la guerre, le mouvement Nujaba a décidé en représailles de mener des actions militaires en réponse. Donc, les États-Unis ont réagi. Ils ont d'abord je crois que c'était le 4 janvier, mené une attaque de drone où ils ont donc liquidé le chef de ce groupe. Et 2 semaines plus tard, donc là, on est vraiment dans un engrenage. 2 semaines plus tard, de nouveau, un bombardement irakien cible une position américaine en Jordanie. Réponse à nouveau, une semaine plus tard, donc bombardement américain contre des positions irakiennes pour cibler les forces de mobilisation populaire. Les Américains sont clairement aujourd'hui en train de s'enliser dans un nouveau conflit en Irak.
Oui, et peut-être remettre une petite perspective historique ici pour bien comprendre la présence américaine en Irak. Le conflit en Irak, première mouture en quelque part, démarre en 2003 et le retrait des troupes est acté en 2011. Ces troupes américaines dont on parle sont en fait présentes depuis 2014 dans le cadre de la lutte contre l'État islamique. Donc pour que les auditeurs et les auditrices comprennent bien pourquoi les Américains sont ici présents.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'ils ont une mission en fait d'encadrement et de conseil dans le cadre de la lutte contre l'État islamique. Mais bon, aujourd'hui, clairement, le gouvernement irakien semble vouloir un départ des forces américaines en Irak. Je pense que c'est une volonté qui est partagée un peu par les principaux acteurs politico-militaires sur la scène irakienne.
Et il me semble justement que l'administration Biden a annoncé, peut-être un peu poussé par ces bombardements depuis le 7 octobre, a annoncé un retrait des troupes américaines d'Irak.
Alors c'est tout le problème, c'est-à-dire que quelque part, ils seraient en train enfin, ils ont évoqué, ils l'ont annoncé, mais il n'y a pas eu d'annonce définitive sur le sujet. C'est-à-dire que ce serait en discussion, ils seraient en train de négocier un retrait. Mais ce qu'on constate pour l'instant, c'est que les attaques contre les positions américaines n'ont pas entraîné leur départ. Elles ont simplement prouvé jusque-là que la position des États-Unis en Irak était vulnérable. Et on a l'impression que les États-Unis sont en train de reconsidérer leur position, puisque depuis l'attaque et la grande offensive sur Gaza, ils sont en train de voir que leur allié israélien est dans une situation fragile. Donc, j'ai plus l'impression qu'ils consolident leur position et qu'ils ne sont pas tout à fait prêts à partir. Parce que quelque part, partir, c'est aussi laisser l'Iran et ses alliés occuper le vide. Donc, ce que j'observe en revanche de manière claire, hein, c'est que les Américains sont aujourd'hui dans un engrenage, c'est-à-dire ils ciblent, ils sont même en train de cibler là le dernier bombardement qui a été fait par les forces irakiennes donc en Jordanie. En réaction, ils ont ciblé pas plus seulement le groupe de la résistance islamique, ils ont ciblé aussi les forces de mobilisation populaire. Donc ils sont en train de s'enliser un peu en Irak, au Yémen, et ces conflits. Et c'est ça le point important qui était au départ lié à la guerre contre Gaza, sont en train aujourd'hui d'avoir une dynamique propre. Donc, dans les faits, par ce positionnement aux côtés en fait, d'Israël, ce positionnement de soutien total, inconditionnel, d'appui militaire, ils sont en train de contribuer à l'extension de la guerre et à la genèse de nouveaux conflits dans lesquels ils risquent de s'embourber.
Et du coup, maintenant, dans un dernier temps de cet entretien, on va peut-être essayer d'avoir du recul et de voir ces deux dynamiques que vous nous avez décrites, donc c'est-à-dire à la fois l'influence et les attaques des Houthis et puis les attaques en Irak de ces milices pro-iraniennes. On en a déjà un peu parlé, mais s'il fallait un peu évaluer ce qui se passe dans les dynamiques de la région, quelle est à la fois la part véritable, bon, alors vous n'êtes pas dans le secret des dieux, mais la part véritable de l'influence de l'Iran dans cette région. Donc vous avez dit qu'il y a un certain degré d'autonomie, par exemple, des Houthis. Qu'en est-il, par exemple, de ces milices irakiennes? Et est-ce que ceci est accueilli favorablement, ce qui semble être comme une reconfiguration de la région, à Téhéran, selon vous?
Alors, donc pour reprendre, hein, je disais effectivement que donc il y a une alliance entre tous ces acteurs. Qui ont aussi leur agenda propre. Ils ont des degrés d'autonomie différents. Hein. On ne peut pas mettre sur un même plan les Houthis et donc les groupes chiites irakiens qui bénéficient d'un soutien plus substantiel de l'Iran. Mais ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'ils ont des objectifs communs. Donc, disons que ces acteurs et l'Iran convergent sur les grands objectifs régionaux. Il y a vraiment une communauté de vues de ce point de vue-là. Donc, aujourd'hui, l'Iran n'a pas intérêt à l'escalade. C'est ni dans l'intérêt de l'Iran, ni dans l'intérêt des États-Unis. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que finalement, l'Iran aimerait bien que, enfin, je ne sais pas, en tout cas, s'il aimerait bien, mais en tout cas, il a intérêt à ce que les Houthis ne ferment pas le détroit de Bab el-Mandeb, ne maintiennent pas un conflit de cette intensité-là. Et je rappelle aussi que l'Iran, avant les attaques, enfin, avant l'attaque du 7 octobre et cette grande offensive, l'Iran était arrivé, enfin, avait négocié un accord provisoire avec les États-Unis, un accord temporaire sur le gel justement des activités d'enrichissement d'uranium et la libération de prisonniers en contrepartie du déblocage des fonds iraniens. Ça fait des années que l'Iran est sous sanction. Je pense que l'Iran a aussi intérêt aujourd'hui, à partir du moment où il peut obtenir donc le déblocage de ses fonds à l'étranger, où on ne l'inquiète plus directement pour son rôle régional, parce que au départ, dans le cadre des négociations sur le nucléaire, l'idée c'était aussi de limiter donc le rôle régional de l'Iran. Donc à partir du moment où l'Iran, on va dire, a plus de marge de manœuvre par rapport à ces grandes questions-là, je crois qu'il n'a pas intérêt aujourd'hui à entrer dans un conflit direct ou indirect avec les États-Unis ou Israël. C'est pour ça que, quelque part, il y a effectivement un engrenage, donc attaque, représailles, etc. Mais on n'est pas non plus dans une escalade militaire qui peut basculer vers un conflit, un embrasement régional et un conflit à grande échelle. Donc, à la fois l'Iran et les États-Unis aujourd'hui ont intérêt à essayer de contenir ce conflit, mais encore une fois, la situation peut toujours dégénérer. Je citais tout à l'heure l'attaque du groupe Nujaba contre la tour 22 en Jordanie. Les Américains, d'ailleurs, faisaient passer cette position en Jordanie comme étant une position de soutien logistique, alors qu'en réalité, il s'agissait d'une base qui supervisait les opérations américaines en Syrie et en Irak. Et les Irakiens ont pu obtenir l'information pour cibler cette base. Après cette attaque, il y a tout de même eu des voix qui se sont élevées aux États-Unis, y compris chez les démocrates et les plus modérés, pour appeler à une réaction en bombardant directement des positions en Iran. Donc ce risque d'escalade, même s'il n'est pas dans l'intérêt des deux acteurs, il existe bien. Il existe bien.
Mais alors, et peut-être pour conclure d'une façon plus générale, ce que je trouve assez interloquant, même dans ce que vous dites, c'est que, et je sais que c'est les analystes de la politique étrangère américaine, en particulier pour Joe Biden, mais aussi pour Donald Trump, pour des raisons différentes, soulignent le fait qu'il y a un manque de planification et de vision à long terme dans cette administration américaine qui semble être sans cesse en posture de réaction, en posture réactive. Donc, est-ce que vous avez des éléments à ajouter là-dessus? On a bien perçu hein, que vous semblez indiquer, et corrigez-moi si j'ai mal saisi, et si je vous résume mal, qu'il y a peut-être un risque d'escalade, mais qui est dans l'intérêt de personne. Mais alors, que pourraient faire les Américains pour éviter cette escalade, plutôt que chaque fois devoir répondre à un risque potentiel?
Je ne sais pas que pourraient faire les Américains. Récemment, Stephen Walt déclarait dans un entretien que les États-Unis ont tendance à proclamer de grands objectifs stratégiques tout en montrant une superbe incapacité à ne jamais les tenir et finissent toujours en fait par mener des politiques contraires à leur agenda stratégique. Normalement, si, y avait encore une vision stratégique et un consensus stratégique aux États-Unis, les Américains devraient aujourd'hui être soucieux, en fait, devraient se concentrer sur leur principal objectif stratégique, à savoir la Chine. Or, aujourd'hui, les Américains reviennent au Moyen-Orient, essayent de consolider leur position au Moyen-Orient. Ils sont dans la réaction et pas la planification. Donc, c'est aussi quelque part pour moi le signal fort de leur perte de vitesse, puisque finalement, cette ré région de laquelle ils veulent se désengager depuis plusieurs années déjà, à chaque fois se rappelle à eux et est de nouveau inscrite en haut de l'agenda stratégique. Donc ça, pour moi, c'est un signe du déclin manifeste, même si relatif, hein, des États-Unis. Donc il est difficile de dire ce que peuvent faire les États-Unis de manière générale. Les observateurs un peu sérieux et les commentateurs politiques aux États-Unis disent de toute façon qu'aujourd'hui, le seul moyen de stabiliser la région, de tordre un peu le bras à Israël et de faire accepter, voilà, l'idée de négociation pour essayer de trouver une solution au conflit israélo-palestinien pour tenter justement de stabiliser la région. Sans le règlement de la question palestinienne, il ne peut pas y avoir de stabilité régionale.
Ce qui est très intéressant dans ce que vous venez d'expliquer, c'est qu'en réalité, oui, il y a l'objectif stratégique des États-Unis qui est de se concentrer sur l'Asie-Pacifique et la montée en puissance de la Chine. Mais d'un autre côté, et vous parliez de signe d'un déclin relatif, on pourrait même aller plus loin en disant qu'aujourd'hui, la politique étrangère américaine, alors qu'elle faisait durant la guerre froide l'objet d'un consensus bipartisan très clair et très peu remis en question, aujourd'hui devient une variable d'ajustement de ces tensions entre administrations successives. On sait très bien que demain, l'élection de Trump pourrait complètement changer l'attitude des États-Unis sur toute une série de dossiers de Gaza à l'Ukraine, à la Chine également, une attitude plus contraignante, plus agressive. Et aujourd'hui, c'est aussi un des symboles de ce déclin américain quelque part, c'est cette incapacité en interne à trouver un consensus. Et à cet égard, et peut-être pour vraiment clôturer votre réflexion, je trouvais vraiment très intéressante, vous disiez que pour stabiliser la région, il faut contraindre et tordre le bras à Israël pour lui faire accepter un règlement de la question palestinienne. Que penser des dernières déclarations ou des derniers titres de presse qu'on a pu voir passer sur la question de Biden qui aurait proposé d'amener sur la table la question de relancer la question de la fameuse solution à deux États?
Écoutez, très clairement, hein, pour moi, ça fait partie, bon, encore une fois, des postures déclaratoires. Les Américains ont eu à différentes occasions la possibilité d'amener les Israéliens à la table des négociations. Non seulement ils l'ont jamais fait, mais ils ont été donc beaucoup plus loin en donnant un blanc-seing à l'intensification donc de la colonisation et à la politique israélienne. Donc aujourd'hui, et puis il y a quand même, si on voulait véritablement amener les Israéliens à opérer une révision déchirante de ce point de vue-là, ils ne seraient pas dans les faits aujourd'hui en train de soutenir massivement et inconditionnellement Israël. On ne peut pas aujourd'hui refuser un cessez-le-feu à Gaza pour des raisons humanitaires et prétendre à chaque fois, donc là on en est je crois au quatrième veto américain, et prétendre vouloir œuvrer sérieusement à la résolution de ce conflit. C'est totalement contradictoire. Moi je m'intéresse uniquement aux faits. Dans les faits, les Américains aujourd'hui démontrent qu'ils n'ont pas encore l'intention de changer quoi que ce soit à leur politique.
D'accord, très bien. Un tout grand merci, Lina Kenouch. Je pense vraiment que nos auditeurs vont vraiment adorer ça parce que vous avez permis de mettre en lumière deux éléments qu'on a peu abordés avec beaucoup de pédagogie. Donc, à la fois, qui sont les Houthis, quelles sont les influences entre la guerre à Gaza, la politique des Houthis et les États-Unis, ainsi que l'Irak, avec une dimension réflexive. Donc, un tout grand merci et je les oriente vraiment vers la description de ces épisodes dans laquelle ils trouveront notamment les articles que vous avez signés pour The Conversation. Moi, j'aime bien parce que ça va vite à lire et il y a plein de liens là-dedans qui cliquent dans tous les coins. Et donc, on a beaucoup de ressources et aussi vers quelques-unes de vos publications s'ils souhaitent creuser tout ça. Un tout grand merci.
Merci à vous, ce fut un plaisir.
Thank you.